Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio.
La zone payante. Bienvenue dans la zone payante, amateur de football, Mathieu Boivin, votre animateur habituel à l'animation, avec à ma droite, Stéphane Cadorette, journaliste du Journal de Québec. Ça va bien?
Oui, l'Halloween est passé, j'ai survécu.
T'es vivant, puis t'es là, good job. Jean Carrier, notre spécialiste fantasy, ex-analyste du Rouge et Or Football, avec nous, et en forme?
En chair et en os.
Good. On met ça en marche, messieurs, et on s'en va pour cette émission aussi de votre balado préféré de la zone payante. On y va, on va faire un bilan de mi-saison et on va commencer avec les honneurs individuels. On va prendre une petite pause et ensuite on va se diriger vers les honneurs un peu, les équipes qui nous ont marqué chacun de notre côté. Je me retourne du côté de Stéphane Cadorette. Quel honneur individuel? On commence avec la course au joueur le plus utile?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? On avait Russell Wilson là, dans notre viseur là, plus tôt dans l'année, ouais. Mais moi, il y a quelques joueurs qui se sont ajoutés. Je pense que l'ami Aaron Rodgers est rendu un incontournable dans la discussion.
Oui, tu as raison, puis c'est ça qui est intéressant. Honnêtement, moi, je trouve que quand on s'est parlé il y a quelques semaines, c'était clair. C'était Russell Wilson et les autres quand même assez loin derrière. T'sais, il y avait Christian McCaffrey qu'on pouvait un peu mettre dans la discussion. Mais il n'y avait pas vraiment de corps arrière qui se démarquait autant que Russell Wilson. Là, en ce moment, moi, je te dirais que c'est un choix très difficile. J'ai tendance quand même à y aller avec Wilson.
T'sais, encore malgré tout?
Oui, pour le ratio touché-interception qui est vraiment exceptionnel. Puis, écoute, je trouve qu'il transporte vraiment les Seahawks sur son dos. Mais t'as Aaron Rodgers, effectivement, qui est rendu très, très près de lui. Oh. Il
n'y
a pas de doute.
Oui, c'est un nano qui traîne l'équipe sur son dos pas mal, je trouve.
Oui, t'as raison, mais j'adore ce qu'Aaron Jones fait aussi au sol.
Oui.
Il y a un jeu au sol qui est nettement amélioré là, pour les Packers par rapport aux années passées. Il y a une défensive aussi qui amène beaucoup d'eau au moulin, je trouve.
Qui lui donne le ballon dans les meilleures positions.
Exactement.
C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier.
C'est en ce sens-là, moi, que je trouve que oui, Aaron Rodgers est extrêmement utile à son équipe. T'sais, pour moi, là, c'est comme un A, un B, lui et Russell Wilson en ce moment. Mais je trouve que de manière générale, Rodgers est mieux entouré. Il y a moins à faire tout seul par rapport aux années passées. Donc, pour ça, je pense que j'ai un petit edge pour Russell.
Russell est toujours ton homme. John S.C., est-ce que Russell est toujours ton homme? Ou
non,
t'as...
il a été déclassé.
Oh, est-ce que c'est Aaron ou un autre joueur?
C'est un autre joueur.
Oh, mais allons-y, mon cher Jean.
J'y vais avec Christian McCaffrey, MVP de la NFL pour l'instant.
Donc, contre toute, entre guillemets, logique, c'est-à-dire les années du passé où c'est tout le temps des carrières, toi, tu vois McCaffrey comme porteur de ballon, joueur le plus utile.
Ouais, puis moi, j'y vais avec la logique que si tu enlèves McCaffrey présentement des Panthers de la Caroline, qu'est-ce qui se passe dans cette attaque-là et dans cette équipe-là? Puis la réponse, il se passe rien. C'est ça la réponse. Il représente plus que 50% de l'attaque, ce qui est gigantesque.
Hey, c'est fou, hein, pareil.
Pour un porteur de ballon. Écoute, il est classé, je pense que présentement, c'est peut-être, j'ai pas vérifié les dernières statistiques, je pense qu'il était premier au niveau du sol.
C'est Dalvin Cook, en fait.
C'est Dalvin Cook, OK.
Mais il y a un match de plus.
C'est ça.
Exactement, ils ont fait une moyenne.
On s'entend qu'il est top 3, là. Puis en plus, au niveau des receveurs, il est dans les meilleurs receveurs de la ligue. Je pense qu'il est dans le top 15 aussi. C'est absolument hallucinant ce que Christian McCaffrey a fait dans les 15.
Puis toute la planète, toute la défense de l'autre équipe, quand il s'enligne contre la Caroline, tout l'univers sait que la balle s'en va à ce gars-là. Ça change rien, là.
Non, ça change rien. Il réussit quand même à s'illustrer à la mi-saison. Ça va peut-être changer. Puis je pense que c'est plus difficile pour un porteur de ballon que maintenant que dans le passé de gagner le titre de joueur le plus utile pour plein de raisons, dont une parce que tu dépends de ta ligne à l'attaque. Ça aussi, faut le mentionner. Puis il faut dire qu'ils ont fait un bout de chemin aussi, les Panthers. La première semaine, c'était pas chic, la ligne à l'attaque. Là c'est, au moins, ils sont capables de courir avec une certaine efficacité. Mais pour tout ça, moi, je vois Christian McCaffrey comme le joueur le plus utile. Je pense que si t'enlèves Wilson, Russell Wilson aux Seahawks et même Aaron Rodgers aux Packers, ça a moins d'impact. Ça aurait de l'impact, oh c'est boy. Sûr. Ça aurait de l'impact. Ouais, mais les gars, on vient de parler. Les Seahawks ont une défensive, les Packers ont une défensive. Ils seraient capables de quand même sortir un petit peu, je pense, la tête de l'eau. Si t'enlèves Christian McCaffrey aux Panthers de la Caroline, honnêtement, je me demande vraiment ce qui se passe avec cette équipe-là.
Moi, le seul bémol que j'ai par rapport à cette candidature-là, si tu veux, c'est le fait que les Panthers sont 4 et 3. Tu sais, j'ai peur qu'au final, ils les transportent même pas en série.
C'est possible. C'est justement pour. Donc, on là, est à la mi-saison. Ouais, mais présentement, ça. Écoute, il est dans les séries ou pas loin.
Ouais.
Donc, on verra jusqu'à ce moment-là.
C'est le seul bémol que j'ai là, pour l'instant. Je trouve pas qu'il propulse dans une autre stratosphère. Je trouve qu'il est extrêmement utile, là, effectivement, à leur succès. Mais j'ai de la misère plus avec l'argument de si tu perds Rodgers ou Wilson, c'est moins pire que si tu perds McCaffrey. Mais écoute, ça reste des excellents candidats.
On poursuit, nous, avec nos honneurs individuels, je m'excuse. Le meilleur joueur offensif, messieurs, c'est-tu vers là que vous voulez aller, Stéphane? Ben,
moi, c'est là où je remets l'honneur à McCaffrey. C'est là où je pense, parce que moi, c'est la notion de plus utile qui m'embête un peu, mais en termes offensifs, il n'y a pas un joueur qui contribue plus à l'offensive dans toutes les facettes du jeu que Christian McCaffrey en ce moment. Tu sais, t'as des excellents corps arrière, on les a nommés, ça sert à rien de passer à travers une autre fois. Mais McCaffrey, c'est le pourcentage de l'attaque là, pour lequel il compte, puis le pourcentage de touches aussi, il faut pas oublier ça. Ça finit toujours qu'il se ramasse avec le ballon entre les mains d'une façon ou d'une autre. Donc, pour ça, moi, je vois pas qui contribue plus à une attaque en ce moment de toutes les façons possibles. Donc, j'y vais avec McCaffrey.
McCaffrey, je me revire du côté de M. Carrier.
Ben, écoute, on a simplement fait une inversion, Steph. moi, j'ai Russell Wilson comme MVP offensif.
Compte tenu que toi, tu mets, bien sûr, McCaffrey comme MVP.
Le MVP de la Ligue, exactement. Donc, Russell Wilson, il a juste descendu d'un rang. Il a quand même toute une saison. Puis évidemment, ben, tu l'as mentionné, il y a d'autres candidats là, qui se pointent tranquillement le bout du nez. Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton. Là, on est à la mi-saison. Mais on voit qu'Aaron Rodgers recommence là, à jouer comme le Aaron Rodgers des beaux jours. Honnêtement, les deux derniers matchs, c'était phénoménal. Ouais,
c'était de la clinique de football.
Ouais, vraiment. Puis des passes que seul Aaron Rodgers sur la planète est capable de faire.
Et puis faut pas oublier une chose, il joue sans Davante Adams.
Ouais, aussi. T'sais,
il fait paraître ses receveurs vraiment meilleurs qu'ils sont en réalité.
Ben, j'ai dit il y a seulement Aaron Rodgers, Patrick Mahomes aussi est dans cette catégorie-là de passes que tu dis mais comment ils ont été en mesure de faire ça? Mais Aaron Rodgers honnêtement, il est exceptionnel depuis deux semaines.
On poursuit dans nos honneurs individuels. Et là, ce serait le joueur le plus utile en défensive. Donc, des joueurs desquels on parle un petit peu moins souvent. On est souvent tenté de parler des exploits offensifs. Mais la NFL, les séries et le Super Bowl, ça se gagne toujours avec les défensives. Stéphane, ton joueur le plus utile en défensive à ce stade-ci.
C'est probablement ça le call le plus difficile à faire, je trouve. Personnellement, là, j'ai débattu ça dans ma tête, la question. C'est pas évident. Il y a plusieurs très bons candidats. Il y en a pas un pour moi qui se démarque clairement au-dessus de la mêlée, mais beaucoup de très bons candidats. Écoute, tu pourras en avoir trois chez les Patriots seulement, que ce soit Devin McCourty qui mène la ligue au niveau des interceptions. Ça pourrait être Stephon Gilmore qui est clairement le meilleur demi de coin à travers la NFL en ce moment. Puis ça pourrait être Jamie Collins, écoute, qui est ressuscité d'entre les morts, qui a des ailes, qui va partout sur le terrain. Mais j'ai tendance à me dire que, écoute, c'est peut-être un peu un choix projection que je vais faire, mais j'y vais avec Nick Bosa.
Oh, Nick!
Je trouve qu'il a métamorphosé la défensive des Niners, qui était une bonne défensive, on va s'entendre, là, l'année passée, quand même, malgré tout. Mais qui est devenu une défensive extrêmement dominante. Puis Nick Bosa, je trouve qu'il a apporté beaucoup à cette ligne défensive-là, qui est plus seulement dominante contre la course, mais qui est capable maintenant de maîtriser le jeu aérien, qui applique énormément de pression. Nick Bosa, c'est un choix, je le répète, un peu comme une projection. Peut-être qu'à ce temps-ci de l'année, ça serait plus Jamie Collins, mais j'ai tendance à y aller avec Bosa. Pour ce qui a amené aux 49ers.
Ah, depuis qu'il est revenu de sa blessure, il y a un impact là, très important. Je me retourne du côté du John Essie. Est-ce que c'est Bosa ou il y a d'autres, un autre joueur pour M. Carrier?
Il y a un autre joueur. Il a été mentionné par Stéphane. Pour moi, c'est la clé de la défensive des Patriots. C'est le demi de coin, Stéphane Gilmore. Présentement, honnêtement, on dirait qu'il est dans une autre planète comme demi de coin. Il y a rien qui fait pas bien. Seulement défensif de zone, on dirait qu'il est en avant des tracés. On dirait qu'il est en avant de ce que, avant même que le carrière pense à faire un jeu, il est déjà là. Il est bien placé. Si tu le joues, tu dis on va prendre une chance, on va jouer en couverture homme à homme, on va amener de la pression. Écoute, il est capable de jouer physique sur la ligne de mêlée. Il est capable aussi de jouer du homme à homme, mais un peu plus loin. Il est capable de jouer en open key qu'on appelle. Écoute, il y a rien présentement que ce gars-là est pas capable de faire sur un terrain défensivement dans la tertiaire là, des Patriots. Puis c'est la clé aussi des Patriots. Parce que souvent, il est attitré au meilleur joueur de l'autre côté et ça permet justement beaucoup de latitude à Bill Belichick pour utiliser les autres joueurs à sa guise. Pour dire, ben écoute, on n'a pas besoin de se préoccuper de cette menace-là. Gilmore
s'en occupe, tout est beau.
Exact. Lui, il s'en occupe. Puis nous autres, on va gérer le reste de l'attaque avec les 10 autres joueurs sur le terrain. Pour toutes ces raisons-là, pour moi, c'est le MVP défensif.
C'est un bon point, tu l'expliques bien. Honnêtement, t'es sur le bord de me comprendre.
Mais c'est ça, sur le bord de changer d'idée, moi, je pense.
J'écoute l'explication, c'est tout à fait logique, c'est bien expliqué en plus de ça. Puis c'est vrai que t'as pas à te soucier de ton... en arrière du terrain, là. Donc, tu peux manier les gars de différentes façons. Après, un Jamie Collins performe peut-être justement beaucoup parce que l'autre en arrière est très fiable.
C'est pas compliqué. Présentement, si tu veux faire mal aux Pats par la passe, ça te prend deux très bons receveurs parce qu'un ne suffit pas.
Parce que le receveur est shut down quand il est contre Gilmore.
Exactement. Puis ça s'est arrivé aux Browns un peu la semaine dernière. Écoute, OBJ a absolument rien fait sur le terrain. Puis dans le cas de...
Landry.
Ouais, Jordan Landry, il y a eu...
Monsieur Garanti, ça a dû être tranquille.
Il a quand même eu, lui, un match correct, mais tu sais, c'est ça. Ça prend minimum plusieurs menaces pour battre les Pats.
On continue du côté des honneurs individuels, et là, on s'en va du côté des recrues. La recrue offensive, je regarde Monsieur Cadorette. Quel est votre candidat à ce stade-ci?
Hey boy, c'est pas évident. Encore là, bon, Kyler Murray pourrait être un bon choix. Je trouve qu'il joue du bon football. Ça a été, il y a eu quelques matchs coup-ci, coup-ça, mais on s'en attend un corps arrière recru. Écoute, c'est
rare. Derrière une ligne offensive très, très, très ordinaire.
Ouais. Tu sais, dans les autres candidats de choix, je pense que Josh Jacobs fait du bon travail à Oakland, complet, capte la passe hors du champ arrière. Puis c'est un gars qui était pas nécessairement, qui avait pas un pedigree, tu sais, prouvé. C'était pas le cheval là en Alabama. Donc, il s'amenait dans la NFL avec très peu d'expérience, très peu de vidéos. Puis je pense qu'il répond à l'appel. Un gars comme Terry McLaurin avec les Redskins, qui connaît une très bonne saison, même si, écoute, il n'y a pas de corps arrière là-bas.
Non, c'est ça. Lui, il est à catastrophe laine.
Mais, malgré tout, j'y vais avec la surprise de la saison dans la NFL. S'il y avait le trophée de la plus belle surprise,
la moustache.
La moustache.
Ah ouais, tu t'en vas directement, voyons, je vais-tu dire, à Jacksonville?
13 passes de toucher, 2 interceptions, un choix de 6e ronde, il est sorti de nulle part. Tout le monde attendait Nick Foles là-bas cette année. Il a fait du boulot formidable, Gardner Minshew. Puis tu regardes, les Jaguars sont encore dans le coup. Ils sont 4 victoires, 4 défaites dans une division très prenable. Moi, honnêtement, écoute, à moins qu'il se plante solidement à Londres en fin de semaine contre les Texans, je vois pas comment tu peux le sortir du terrain. Je le vois plus. Au début, c'était une question légitime.
Mais là, il est trop performant. Là.
L'affaire, c'est que Nick Foles a le gros contrat. Tu l'as signé à gros prix. Tu veux le voir jouer. Mais en ce moment, comment t'enlèves un gars qui non seulement joue bien, mais qui est en train de devenir un héros de marketing pour une franchise qui a franchement...
Okay, mais tellement besoin de swag, là.
Il n'y a pas d'identité là-bas depuis des années. Comment t'enlèves ce gars-là du terrain? Pour moi, pour toutes ces raisons-là, mais avant tout pour son jeu de grande qualité, Gardner Minshew.
John Essie, est-ce que t'as un choix différent?
J'arrive aux mêmes conclusions.
La zone payante aime la porn stash.
Gardner Minshew, honnêtement, écoute, Stéphane a bien résumé un peu là, tout ce qu'il apporte là, au moulin pour les Jags. J'ai pensé longtemps à Josh Jacobs. Pour moi, c'est le candidat numéro 2. Kyler Murray est 3, fait bien. En passant, Kyler Murray, y a-tu une vitesse que personne d'autre?
Alors, dans le match de jeudi soir, on a vu quelques sprints.
Quand il décide de courir, là, c'est quelque chose. Honnêtement, il est vraiment, vraiment rapide. Mais écoute, ceci étant dit, pour moi, Gardner Minshew donne une chance aux Jags à chaque match. Puis on s'attendait pas à ça. Et quand tu vois aussi les commentaires, ça pour moi, ça me parle des autres entraîneurs, les entraîneurs qui l'affrontent. Mm-hmm. Puis beaucoup, il se fait encenser. Là. Écoute, il dit, tu penses que tu vas le surprendre avec des choses. Puis il dit, il y a déjà une autre étape. Ses lectures vont vraiment, vraiment bien. Honnêtement, c'est un keeper pour les Jags.
Il y a un calme vraiment désarmant. Dans
aussi, vrai. Exact.
Fort pertinent. L'honneur de joueur recrue défensif, Stéphane?
Je pense que je me suis vendu un peu tantôt. Vous allez comprendre que je passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Nick Bosa, pour moi, est un choix évident. Je pense qu'il pourrait finir par récolter les deux trophées. Il y a de bons candidats aussi, Devin Bush à Pittsburgh, entre autres.
Super saison.
Mais j'y vais avec mon choix d'origine.
Johnny?
Honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas de discussion à avoir. C'est Nick Bosa, l'homme de la situation.
Messieurs, un tour d'horizon rapide au niveau des honneurs individuels. On prend une petite pause et on revient avec nos... Oui?
On parle d'entraîneur rapidement?
Oh, rapidement. Johnny, fouette-moi après l'émission et donne-moi ton entraîneur de l'année à ce stade-ci.
Honnêtement, je vais laisser ta blonde te fouetter, Mathieu.
Merci, Jean.
Mais écoute, l'entraîneur de l'année pour moi, c'est Bill Belichick. Bill Belichick, je trouve qu'ils ont perdu des trucs. Même s'ils ont affronté une très bonne cédule, écoute, ils sont parfaits jusqu'à maintenant. Ils ont une défensive qui est historique pour l'instant. Puis honnêtement, ils ont perdu des outils importants avec Gronk, entre autres, offensivement. Puis ils continuent de gagner. Ils font ce qu'ils ont toujours fait. Donc, un choix vraiment pas sexy, mais efficace, Bill Belichick.
Dark Vader. Stéphane.
Pour un peu les mêmes raisons, mais j'y vais avec un autre nom. Moi, j'y vais avec Sean Payton. Je trouve que c'est remarquable que l'équipe ait gardé son focus à ce point-là à New Orleans, malgré la perte de Brees.
Ils n'ont pas perdu un match.
Ouais, ils ont perdu un match.
Ah, ils en ont perdu un, je m'excuse.
Ils en ont perdu un
ça, oui.
Ils en ont perdu
un.
Los Angeles.
Oui, merci. Voilà.
Et même pas avec Bridgewater, avec Brees comme carrière, étrangement.
Oui, c'est ça. Ben, c'est le
non, je parlais, ils n'ont pas perdu un. Avec Teddy, c'est ça que je voulais dire.
Exact. Non, Teddy a pris le relais de façon formidable, mais c'est quand même un gars qui a bien préparé son équipe. T'as eu d'autres joueurs qui sont tombés au combat. Je pense à Alvin Kamara. Latavius Murray est embarqué comme si de rien n'était. C'est signe qu'une équipe est prête et bien préparée, bien coachée par son entraîneur, Sean Payton, à mon vote.
Messieurs, je crois que je n'ai pas d'amnésie à ce stade-ci. On peut aller à la pause. Et ensuite, on revient, on parle d'honneur, on parle des équipes qui nous ont marqués en cette première partie de la saison. De retour, Stéphane, ton équipe surprise, que ce soit négatif, positif, quelle équipe dans la NFL t'a offert, disons, le plus haut niveau de surprise cette année?
Ah, ben moi, l'équipe qui m'a le plus offensé, c'est les Falcons. Honnêtement, je les...
Ah, c'est une fraude, là, cette équipe-là.
Je les voyais gros. Je les voyais en série, moi, personnellement. C'est dans nos pics de début d'année. Ceux qui se souviennent vont m'en tenir rigueur. Je les voyais en série. Je pensais que c'était un club qui avait été malchanceux avec les blessures l'année passée, qui allait passer par-dessus ça, qui allait s'imposer. Puis là, on parle pas d'une équipe qui déçoit un peu.
Qui déçoit beaucoup.
On parle d'une équipe de sous-sol. Les Falcons, ça fonctionne pas dans ma tête.
C'est pas si, comme si leur carrière faisait pas le boulot. Non. Le gars qui crée de l'attaque donne de la chance à son équipe à gagner, mais en défensive, on a 11 poteaux sur le terrain, là, pratiquement.
Non, là, c'est vraiment pas drôle. Puis écoute, ce club-là est dirigé par Dan Quinn. Jusqu'à quand, je le sais pas. Mais on sent qu'il y a une ouverture maintenant du côté du propriétaire Arthur Blank pour regarder ailleurs. Ça regarde très mal pour Quinn. Puis on a de la misère à croire que c'est cet homme-là qui dirigeait les Seahawks en défensive dans leurs plus belles années. Écoute, c'est un club complètement perdu, là, les Falcons. Pour moi, c'est la surprise de l'année. Puis je le dis pas de façon très positive ni de gaieté de cœur. C'est un club en lequel je croyais beaucoup. Mais honnêtement, pour moi, les autres, c'est même pas proche de décevoir autant.
John Lacy? Ta surprise, que ce soit négatif, positif, quelle équipe t'a jeté à terre, que ce soit pour la bonne ou la mauvaise raison?
Je vais donner de l'amour aux Niners, honnêtement. C'est un club que pas beaucoup de monde voyait. Peut-être que tu voyais batailler pour faire les séries. Honnêtement, qui les avait avec 8 victoires, aucune défaite? Il y avait personne. Ouais. On les attendait un peu plus l'an passé. Là, ils ont eu beaucoup de blessures. Et là, cette année, un peu, ils sont arrivés un peu sous silence. Personne ne les voyait venir. Et là, ben écoute, tout le monde, ils sont en train de montrer à la NFL que c'est un club vraiment à prendre au sérieux. Une défensive dominante, un front défensif qui fait peur, honnêtement. Là. ils sont tannants. Là.
Tu sais, t'aurais dit, les Niners, après 8 matchs, vont être 5 et 3. Je t'aurais dit, c'est tout à fait logique.
Possible.
C'est le 8-0 qui est.
Exact, c'est le 8-0. Moi aussi, c'est ça qui frappe. Puis honnêtement, ils sont capables de courir avec plusieurs porteurs différents. Ils ont un bon comité de porteurs.
Moi, c'est une belle recette, c'est que tu dépends pas d'un joueur.
Non.
Tu peux dire, on va alterner, on brûlera pas nos gars, on va les prévenir des blessures.
Que ce soit Coleman ou Breida, il n'y a aucun problème. Même, c'est Mohart,
le troisième.
Donc, non, écoute, ils font vraiment le boulot. Moi, c'est le club. Puis, Kyle Shanahan, honnêtement, on ne l'a pas nommé comme entraîneur-chef de l'année, mais il est un candidat.
Il est dans la liste, assurément.
Le club le plus décevant, écoute, il y en a quand même quelques-uns.
Fais-toi mal.
Ouais, ouais.
Moi, Johnny, c'est le temps. On va reprendre le coup de fouette que tu m'as donné tantôt, puis je t'en donne un. Là.
J'ai pas encore désespéré, par contre, mais je pense que c'est les Browns de Cleveland.
Ils ont une fin de saison assez confortable au niveau du calendrier.
Vraiment, vraiment confortable. Mais écoute, c'est de la façon que les Browns jouent. Je pense que c'est ça qui est décevant. Que leur fiche soit présentement 2-5, écoute, il y avait vraiment une portion de calendrier difficile la première. C'est décevant, mais c'est qu'ils sont même pas proches de gagner. C'est de la façon qu'ils jouent avec des millions de punitions.
Des interceptions, le boulanger au bord.
Même si le calendrier est plus facile, je veux dire, si tu continues à jouer, il n'y a aucune équipe dans la NFL qui gagne en faisant des revirements. C'est aussi simple que ça. Donc, si Freddie Kitchen et pas en mesure de redresser cet aspect-là. Honnêtement, les Browns, c'est terminé. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est déjà terminé. Moi, je dirais, on va le savoir dans les 3 prochains matchs. S'ils sont capables de, peut-être 3 victoires. Écoute, ils affrontent 2 fois les Steelers qui, Matt, tu vas assurément dire que c'est pas la meilleure version des Steelers que tu as vu dans ta vie.
La défensive est intéressante, l'attaque up and down.
Donc, c'est des matchs prenables.
Oui, absolument.
Denver et les Dolphins. Donc, on s'entend que c'est 4 matchs. Si gagne ces 4 matchs-là, ben t'es revenu dans la course. Là, pour. Puis, dans cette division-là, la AFC Nord, il n'y aura pas de club qui va gagner comme meilleur deuxième. Oubliez ça. Ça va être le champion de division qui va être dans les séries et c'est tout. Donc, ils ont une chance possible d'encore prendre la division, surtout qu'ils ont gagné le premier match contre les Ravens à Baltimore. Donc, ça leur donne un petit edge.
Hey, on oublie ça, pareil, c'est dans la même saison. Là. Les Browns sont allés exploser les Ravens chez eux. Puis depuis ce temps-là...
Mais ils sont capables du meilleur et du
exactement.
Pire, c'est vraiment ça.
Ça fait partie des mystères de la vie, ça.
Mais, en effet.
Mais pour l'instant, une saison extrêmement décevante.
Pour finir là-dessus, puisque tu as donné de l'amour à un club quand même, je voudrais en donner un peu aussi au coach.
Ben oui, c'est ça, je voulais aller vers l'amour.
Oui, parce qu'il faut distribuer de l'amour, c'est important. Mais les Colts, moi, je pense qu'ils méritent beaucoup de respect.
Ouais. Brissett joue bien.
Tu perds ton carrière de franchise à quoi? Là,
quelques jours du début de l'année, là, la saison régulière.
Ça peut être un coup de masse fatal dans le front, ça. Tu sais, combien d'équipes ne se seraient pas remis?
Non. Il y a plusieurs équipes, ça serait écoulé. On serait 0-7, 0-8, puis ça serait fini. Là.
Quand les Colts nous ont dit là à la fin du mois d'août, « Non, on n'est pas inquiets. C'est une très mauvaise nouvelle, oui. Mais on a Jacoby Brissett. Il connaît bien le système. Il va performer. » Qu'est-ce qu'on s'est tous dit? On s'est dit
« Ouais, c'est bonne. »
C'est un joueur correct qui va amener les Colts à un niveau compétitif. Moi, je me rappelle, dans Zone payante, entre autres, c'est ce qu'on disait. On disait « Les Colts ne se feront pas déclasser. »
Non.
Mais... est-ce que c'est un club de série? Ça va être un dur coup à franchir. Puis c'est pas fait, c'est pas gagné. Sauf que, honnêtement, je m'attendais pas de voir les Colts en si bonne position à ce stade-ci de la saison. Donc, je leur donne de l'amour bien mérité.
Et un match très important ce week-end, Steelers-Colts.
Ouais, une autre équipe, pour moi, que je croyais plus ou moins, mais que notre confrère, Denis Casavant, croyait dur comme fer, ben c'est les Ravens de Baltimore. Les Ravens ont quand même une bonne saison, sont 5-2, puis là, ils ont un gros match. On va voir à quel point Lamar Jackson va être en mesure de faire quelque chose contre la défensive de Bill Belichick. Parce que le vieux loup doit avoir concocté un beau mélange pour Lamar Jackson en fin de semaine. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là.
Messieurs, je n'avais pas donné ben mon avis, là, je vous laisse aller, mais moi, je vais parler de mon équipe très rapidement. Est-ce que, moi, je pense que les Steelers ont encore une chance de revirer le bateau de bord? Je suis fou, les gars?
Oui, tu l'es.
Non, je crois vraiment. Le pire, c'est qu'ils ont été horribles contre les Dolphins en fin de semaine dernière. Les Steelers, ça fait des années, on match l'énergie de l'autre équipe. Ils vont pogner les Colts, ils peuvent aussi bien battre. Puis là, on est 4-4, on est revenu dans la course.
Non, moi, je pense que c'est le partisan en toi qui parle.
On verra, on parlera de ça la semaine prochaine. Mais c'est une équipe décevante. On s'attendait à mieux.
Parce que si tu parles que les Steelers remontent le bateau, c'est que tu crois que Mason Rudolph, c'est la solution.
Je dis pas que ça l'est. Hey. Juste que là, on est pogné avec lui. Et moi, j'ai vu le Rudolph, la deuxième demi des Dolphins. C'était meilleur. Il revenait à une grosse commotion. Il est parti tout croche. Moi, je pense qu'il y a encore une chance. Mais écoutez, on est pas obligé de s'entendre là-dessus, mais moi, je crois encore qu'ils peuvent revenir.
Je vous laisse aller là-dessus. Je trouve ça beau de vous voir. C'est une rivalité de division. J'adore ça.
Mais je pense vraiment qu'ils peuvent revenir. Il y a une cédule. Il y a deux matchs contre... Il y a des Bengals encore qui s'en viennent. Deux matchs contre les pitoyables Browns. Il y a possibilité d'en revenir. Je dis pas que ça va arriver, mais il y a une possibilité.
Dans les équipes aussi qu'on n'a pas parlé, qui est un peu décevant, malgré que l'affiche, ils sont en train de se redresser un petit peu, mais ça va être dur pour eux de faire les séries. Et c'est pas comme si je vous l'avais pas dit, messieurs, les Rams.
Oui, en effet.
Les Rams, honnêtement, c'est pas fait, là, une participation aux séries. Ça va être difficile, ça va être jusqu'à la fin. Puis on se rend compte qu'il y a certaines limites.
Il y a des limites à cette équipe-là.
Aucun doute. Oui, Steph?
Mais j'allais juste renchérir sur le fait que Todd Gurley est plus le même.
Ah non, vraiment pas.
Puis on l'utilise très mal, ça c'est l'autre chose.
Chante. Mais est-ce qu'on l'utilise mal parce qu'il est encore magané et on peut pas lui donner le... C'est ça, on a de la misère.
Il va falloir qu'il finisse par nous le dire si c'est le cas. Parce qu'il arrête pas de nous dire « Todd Gurley va bien, Todd Gurley va bien, c'est moi qui l'utilise mal. » Sean McVay utilise le bien s'il va bien ou dis-nous qu'il va mal s'il va mal.
Puis s'il est blessé puis il ne peut pas jouer à 100%.
À un moment donné, là, on va arrêter de jouer au jeu du chat et de la souris. C'est très bizarre cette situation-là. Puis l'attaque est carrément pas la même depuis que Gurley n'est plus
aucun doute, un
porteur de ballon d'élite.
Fort pertinent, messieurs, on va prendre une petite pause et on s'en va ensuite vers les prédictions des matchs du week-end.
I got news for you, buddy. We're gonna win the game, I guarantee it. I guarantee it. I guarantee it.
Enough said.
Alors, on est là et on est en force et on commence. Je fais ça à l'inverse cette semaine. Je me revire du côté du Jean Carrier et on commence un match sur le continent européen à Londres. Texans qui visite les Jaguars. En fait, l'équipe locale, c'est les Jags. Et M. Moustache, victoire des Texans ou de la moustache, M. Carrier?
Écoute, comment ne pas aimer la moustache? En plus, on est dans le mois de novembre, donc
Movember, go.
Je vais prendre les Jags à Londres face aux Texans. Je pense que les Texans jouent bien, jouent du bon football. Mais là, ils vont commencer à manquer de munitions à un moment donné. Puis, on n'a pas parlé de la blessure de J.J. Watt, mais ça reste une blessure qui fait
très importante.
Très mal. Puis, écoute, j'adore J.J. Watt. Qui ici à la table n'aime pas J.J. Watt?
Non, c'est un superstar.
Un superstar charismatique, un joueur de concession qui est beaucoup blessé. La troisième année dans les quatre dernières qui finira pas la saison. Et honnêtement, celle-là fait très mal à la défensive des Texans, qui est pas la meilleure en partant. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai l'impression que les Jags vont sortir. C'est un match important pour les Jags, match de division. Je pense que ça va être la bonne version des Jags qu'on va voir.
J'aime l'évaluation. Je vais avec les Jags aussi. Stéphane?
Ce qui est intéressant à aller voir du côté des Texans avec la blessure de Watt, c'est qu'avant, tu avais quand même un certain pass rush avec Merciless et Clowney.
Ouais.
Là, tu n'as plus Clowney. Merciless risque de se sentir seul un peu. puis écoute, il y a des blessures aussi sur la ligne à l'attaque. Là, on ne sait pas trop. Titus Howard, Laremy Tunsil aussi qui est éclopé un peu. Je pense que ça pourrait être difficile contre Saxonville et Gardner Minshew, bien sûr. Donc, j'y vais avec les Jaguars aussi.
Redskins qui visitent les Bills, j'irai rapidement. Bills pour Mathieu Boivin. Jean Carrieux, je suppose que c'est une victoire des Bills.
Oui, Bills aussi, mais les Bills, ils se doivent de rebondir. Là. Ça fait, même s'ils ont gagné contre les Dolphins, ils n'avaient pas bien joué. Ils se doivent d'avoir un bon match.
Stéphane?
Oui, il faut voir Josh Allen performer parce que c'est un corps arrière qui, on le dit souvent, complète pas assez souvent un pourcentage de passes assez élevé. Les Redskins, c'est la pire défensive de ce côté-là. On complète 72% des passes contre eux. Imaginez, 72. Si Josh Allen n'a pas un bon pourcentage contre eux, ça arrivera jamais. Bills.
Titan qui visite les Panthers, l'équipe schizophrène. J'y vais avec une victoire des Titans. Contre toute logique, parce que logiquement, je prendrais les Panthers à la maison, mais je vais avec les Titans.
J'adore quand tu dis équipe schizophrène, c'est tellement...
Mais c'est ça, les Titans.
Écoute, Tannehill va redevenir Tannehill, je pense.
Ah, c'est en fin de semaine, OK.
C'est là que ça se passe, parce que les Panthers vont mettre la pression dans sa face. Il n'y a pas une équipe qui donne plus de sacs que les Titans. 34 sacs à louer déjà. Je pense que Ryan va s'ennuyer un peu de sa môme.
Fort possible. Johnny?
Ben, je vois dans le même sens. Moi aussi, j'ai des Panthers à la maison qui battent les Titans. Les Titans, je les ai beaucoup mieux sizés dans les
deux. T'es mieux sizés récemment?
Dans les deux dernières semaines. Donc, je vois avec la victoire des Panthers et le spectacle CMC continue, messieurs.
Vikings qui visite les Chiefs, un des très bons matchs de la traque des matchs d'une heure. Johnny C.
Écoute, j'étais allé avec une victoire des Chiefs la semaine passée, puis honnêtement, ça a pris une performance magistrale d'Aaron Rodgers pour me faire mentir, parce que les Chiefs sont sortis très, très fort. Mais je pense encore qu'ils vont sortir fort, puis je les vois battre les Mauves. Je pense juste que ça va être un même genre de match, puis Kirk Cousins ne sera pas capable de faire ce qu'Aaron Rodgers a fait la semaine passée.
J'y vais contre la prédiction de Jean, j'y vais avec les Vikings. Stéphane.
Écoute, il y a une façon que les Vikings peuvent gagner ce match-là, c'est en courant Cook dans la gorge des Chiefs. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Les Chiefs sont 1-3, sauf erreur, à la maison cette année.
Ouais.
Je peux pas croire qu'ils vont perdre un autre match à la maison comme ça. Tout me dit que les Vikings ont le stuff pour attaquer les Chiefs au sol puis les battre. Mais il y a quelque chose, je sais pas quoi, qui me dit non, ça se peut pas, les Chiefs vont pas échapper ce match-là. Trop important, j'y vais avec les Chiefs.
Mais c'est un des matchs que j'ai hésité le plus là, lors du week-end. Puis, tu sais, les Vikings peuvent très bien sortir un gros match puis sortir les Chiefs.
Là. Oh, une petite coupe des ordures, les boys. Les Jets 1-6 qui visitent les Dolphins 0-7. Et les Dolphins, dans le match du lundi soir, ça fait longtemps que j'ai vu un mauvais club de même. Les joueurs travaillent. On peut pas leur dire que les gars et les joueurs veulent jouer pour Fitzpatrick, mais honnêtement, au niveau talent pur, c'est un des pires clubs que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable. J'ai vu avec une victoire des Jets, mais tu sais, de façon non convaincante. Johnny.
Écoute, t'as bien évalué la situation.
C'est ça. Ils sont vraiment, mais vraiment pas bons. Là.
Ben, tu sais. C'est vraiment du tanking à l'état pur parce que tu vois que les joueurs sur le terrain veulent jouer, mais ils n'ont plus rien.
Exactement, c'est ça.
C'est le club.
C'est tout à leur honneur. Hein. Il faut leur donner des joueurs des Dolphins. Malgré tout ce que le deuxième étage fait pour dissiper leur morale, au niveau de l'intensité, on ne peut rien dire. Donc, une victoire des Jets aussi, ouais, Jean?
Une victoire des Jets parce que, écoute, les Dolphins n'ont juste plus rien.
Steph?
Oui, puis... Je trouve ça, je pense que Sam Darnold va sortir de sa torpeur. Là. Je sais que dernièrement, il a vécu des expériences paranormales.
L'Halloween est terminé, messieurs. Ouais.
Tout devrait bien aller. Là.
Mais celui qui va le plus sortir de sa torpeur, encore plus que Darnold, c'est Le'Veon Bell. On le voit pas.
Ouais, puis ça, c'est le genre de match qui est bon pour lui. Là.
Il est mort, puis les Dolphins sont tellement mauvais contre la course que c'est lui qui va se charger de leur cas.
Bears qui visite les Eagles, une reprise d'un des matchs de série de l'année dernière qui avait fait beaucoup jaser. Est-ce que les Bears se réveillent, Johnny, ou les Eagles gagnent à la maison?
Mais écoute, on approche l'hiver et j'ai l'impression que les Bears vont tomber dans une profonde hibernation.
Ooh.
Je vois les Eagles gagner ce match-là. Les Eagles m'ont impressionné face aux Bills la semaine dernière. Et il faut que Peterson arrête de se casser le bicycle. Les Eagles sont faits pour courir avec le ballon.
Courir!
Ils sont capables de courir contre n'importe qui, parce que les Bills, ils ont quand même une bonne défensive. Ils ont une grosse ligne à l'attaque. Oui, les Bears, ça va être difficile de courir contre eux, mais il faut que tu te fasses respecter, il faut que tu sois équilibré. Et à ce moment-là, ça va ouvrir le jeu de passe aérien et ça va fonctionner. Donc, je vois les Eagles gagner ce match-là.
John a dit tellement des affaires intelligentes, mais je vais en ajouter une de plus. Les Bears ont un mauvais carrière. Tu sais, là, et honnêtement, est-ce qu'il faut commencer à se poser la question, est-ce qu'il y a quelques années qu'on a fait, t'es allé chercher ce carrière là en première ronde, est-ce que c'était une erreur? Trubisky est mauvais, donc je vais avec les Eagles.
C'est une erreur encore plus quand tu penses que cette année-là, qui est sorti après lui? Deshaun Watson et Patrick Mahomes?
Ouh.
Ça fait mal, les amis. Écoute, ce serait totalement ironique, mais presque drôle que les Eagles gagnent ce match-là par un placement raté des Bears.
Parce que n'oublions pas que les Bears en ont raté, ont perdu un match le week-end dernier, oui, encore à cause de leur bon botteur.
Puis en série l'année passée contre ces mêmes Eagles.
C'est très beau, c'est très beau. Donc, tout le monde s'entend ici, victoire des Eagles. Steelers qui visitent les Colts, le partisan va parler. Oui, victoire des Steelers contre toute logique. Johnny!
Les Colts viennent de sortir d'une semaine de bye. Frank Reich est un autre candidat qu'on n'a pas nécessairement parlé, mais que je trouve qu'il fait un boulot phénoménal depuis qu'il est en poste avec les Colts. Et à quoi qu'on peut s'attendre de plus, tu sais, Frank Reich? Quand même, monsieur comeback, là, écoute, avec les Bills, c'est lui que...
Inoubliable,
hein, qui jouait d'ailleurs contre les Colts, si je me
rappelle.
Non, les Houston, les Oilers de Houston, effectivement. Donc, écoute, on a fait un petit flashback, là, avec Frank Reich, qui est l'auteur du plus grand retour en série, je pense, de l'histoire, oui, de la NFL. Donc, pour tout ça, je vais y aller avec les Colts.
Ce qui n'est pas une mauvaise décision, mais, disons-le.
Mais la ligne à l'attaque des Colts, honnêtement, elle joue du très, très gros football. Elle est vraiment, vraiment pas le fun à affronter.
Steph!
Ça va être un gros défi parce que la défensive des Steelers joue quand même bien, honnêtement.
Puis le front défensif des Steelers est solide.
Oui, tout à fait. Mais je pense que les Colts vont gagner ce match-là de peine et de misère. Je vois ça un peu comme un match.
Ça parlera à 4h15, les gars.
Pas pointage, là. Ça va être un genre de 17-16, quelque chose comme ça.
Lyon qui visite les Raiders. Les Raiders ont perdu la semaine dernière dans un match de fou contre les Texans. Les Lions ou les Raiders, John Essay.
C'en est une que je me suis longuement questionné. Les Lions sont rendus vraiment unidimensionnels. Ils ne sont pas capables de courir.
On passe.
Mais les Raiders, c'est la 30e pire défensive là, contre le jeu aérien de la NFL. Quand tu sais que tu vas affronter une attaque aussi solide au niveau aérien que celle des Lions, je vois avec les Lions. De façon serrée, ça va être un match très...
Chaudement disputé.
Ouais, j'allais dire âprement disputé.
Donc, victoire des
Lions.
J'y vais avec les Lions aussi. Stéphane.
C'est tout à fait vrai. Les Raiders sont 30e contre la passe. Mais les Lions sont 32e. Incroyable. Moi, j'aurais jamais pensé ça. On pense toujours que c'est l'année où leur défensive va s'améliorer.
Et non.
Il y a beaucoup de lacunes du côté des Lions. Puis si Matthew Stafford n'est pas à son summum, ce club-là ne peut pas gagner de match en ce moment. C'est dommage un peu. Puis les Raiders, imaginez comment le Black Hole va être surexcité. Ça va être le premier match à la maison depuis
fou,
le 15
ça, ouais,
septembre.
Non, c'est fou.
C'est quand même incroyable.
Ils ont comme fait le tour du monde, eux autres.
Le gars qui a fait la cédule des Raiders ne les aime clairement pas. Là. Ça, c'est officiel. J'y vais avec une victoire des Raiders. Ça sera pas évident. Mais il faut mettre un peu de chicane dans la zone.
Oui, puis les Raiders ont vraiment une saison, malgré tout ce qu'on vient de dire, vraiment meilleur que ce qu'on s'attendait. Là. En tout cas, de mon point de vue, là, donc c'est possible. Victoire des Raiders.
Il y a de l'espoir.
Avec Jacobs qui court. Okay.
Les Bucks 2-5 qui visitent les Seahawks. Je dirais simplement une victoire des Seahawks. Johnny.
Seahawks à domicile, ça va faire le boulot.
Et voilà.
OK, good job, on continue. Messieurs, moi, je dirais c'est quand même un prélude, un genre de coupe des ordures ici aussi. Là, Browns qui visitent les Broncos.
C'est pas rien, ça.
J'ai dit un prélude. Je n'ai pas parlé de coupe en tant que telle des ordures. Là. J'ai dit une demi-coupe des ordures. J'y vais avec le club local. Joe Flacco est sur le banc. Ça peut pas être pire. Donc, j'y vais avec une victoire des Broncos à la maison. Monsieur Boulanger va se faire intercepter 2-3 fois et tout va bien aller. Johnny.
C'est la semaine que j'ai l'impression que les Browns vont revenir sur le sentier de la victoire. Victoire des Browns. Ils ont simplement une bien meilleure équipe que les Broncos au niveau talent. Mais tu l'as mentionné. Ce qu'il faut regarder dans ce match-là, c'est les revirements. Si les Browns en font, ben, ils vont perdre. Mais j'ai l'impression qu'ils vont gagner.
Stéphane.
J'ai confiance au pouvoir des Browns.
Messieurs, on va s'en parler à 7h30 dimanche. Packers qui visitent les Chargers. Des Chargers, là, on parlait de surprise. Ça, c'est une des bonnes déceptions de la saison. Malgré que Johnny, je me rappelle bien, il l'avait prédit. Là, que ça serait...
Out les Chargers.
Oui, il l'avait bien prévu. Donc, logiquement, Johnny, tu vas y aller avec une victoire des Packers.
Oui.
Oh, oui, OK. Celle-là, wow, qu'est-ce qui se passe?
Non, quand même pas. Écoute, la façon qu'Aaron Rodgers, c'est très simple. La façon qu'Aaron Rodgers joue présentement, il n'y a personne qui va battre les Packers.
Victoire des Packers pour moi aussi. Stéphane.
Victoire Packers, puis j'ai hâte de voir le stade ridicule des Chargers être plein de têtes fromagées. Il n'y a tellement pas un club qui a un pire avantage du terrain.
Oui, c'est ça. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, quand les Steelers étaient en ville, c'était carrément un match local pour Pittsburgh. Là.
Moi, je le dirai toujours, je le répéterai toujours, c'est avec grande fierté que je le dis à chaque fois, c'est un move de cabochon pour les Chargers d'être partis à Los Angeles. Ils n'auront jamais d'appui dans cette ville-là. C'est pas un marché pour eux. Dommage, mais faut qu'ils se battent à chaque semaine comme s'ils étaient sur la route.
Match du dimanche soir.
Ooh.
Et honnêtement, le match costaud du week-end.
Aucun doute.
Patriots, 8 victoires, aucune défaite, qui visitent les Ravens. Ravens 5-2 et qui sortent d'une grosse victoire à Seattle. John Essay.
Ah, c'est moi qui
commence. Oh, c'est toi qui starte ça. Là.
Écoute, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce match-là pour une raison. Est-ce que Lamar Jackson est un fraudeur? Est-ce que c'est un excellent carrière ou il est juste un running back? Et là, on va le voir avec la défensive de Bill Belichick. J'ai l'impression que Bill Belichick va couper l'attaque terrestre des Ravens.
Tu vas nous battre. Avec ton bras, mon ami.
Et on va voir si Lamar Jackson est capable. C'est possible. Écoute, moi, Lamar Jackson, je commence à être un acheteur. Là. Et il est en
ah oui, tranquillement, il est en train de te convaincre.
Tranquillement, il est en train de me convaincre, mais ce match-là, il est important pour moi. C'est un match que je vais regarder avec attention. J'ai l'impression qu'il ne sera pas en mesure de le faire. J'ai une victoire des Pats. Et c'est pas grâce à l'attaque des Pats non plus.
Je vais avec une victoire des Pats, mais ça va être un match très, très serré, plus qu'on pense. Stéphane.
Je suis exactement au même point où en est Johnny dans l'évaluation de Lamar Jackson. C'est-à-dire que j'ai longtemps douté de lui. Là, tranquillement, pas vite, il est en train de me gagner. Il est en train de me gagner à sa cause parce que je me dis ce qu'il a fait aux Seahawks, c'est quand même respectable. Mais cela étant dit, les Seahawks, c'est pas les Patriots. Je vois mal Bill Belichick se laisser manger au sol pendant tout le match par Lamar Jackson, le laisser être l'athlète qu'il est. Je pense que c'est la première chose qui va neutraliser. Est-ce que Lamar Jackson peut battre un club par son bras? Oui. Est-ce qu'il peut battre les Patriots par son bras? Ça, c'est une autre question. Honnêtement, quels receveurs là-bas vont aller jouer contre la tertiaire des Patriots? Tu sais, Marquise Brown est explosif, il est rapide, mais s'il y a Stephon Gilmore d'impact,
C'est terminé.
Ça devient difficile. Écoute, les Ravens, il faut leur donner une chose, ils n'auront pas peur des Pats.
Oh non, pas nous d'accord.
C'est pas un club qui se laisse intimider comme
non,
d'autres.
Non, vraiment pas, je suis d'accord.
Il y en a qui arrivent contre les Patriots, puis l'aura d'invincibilité, puis Bill Belichick, puis Tom Brady, puis ils chantent leur louange pendant une semaine avant d'arriver là, puis ça fait presque inégal avant que ça commence. Les Ravens ne se laissent pas intimider. Mais je vois mal comment Lamar Jackson peut gagner ce match-là avec son bras, puis je pense que c'est ça qu'il va avoir à faire, Patriots.
Et ça va être un match extrêmement physique.
Ah non, ça va se tapocher, là. Les employés des deux équipes au niveau des blessures, là, des infirmiers, des soigneurs, merci, vont être très occupés.
Et l'équipement aussi, parce que ça se peut qu'il y ait quelques snaps de casque
qui revolent.
Ce qui est intéressant, c'est quelle couverture va adopter Bill Belichick en défensive, parce que si tu joues homme à homme, tu as le dos tourné par rapport à Lamar Jackson qui, là, peut se servir de ses jambes. Mais si tu joues beaucoup de zone, ben lui, écoute, il va prendre les passes dans le flat, les petites passes en milieu de terrain. Ça devient stratégiquement très difficile de se défendre contre Lamar Jackson. Mais je pense que tu as l'homme de la situation pour le faire.
Et en couverture homme à homme, j'aime les ailiers rapprochés des Ravens. Mark Andrews, entre autres.
Ouais.
Je pense qu'il pourrait exploiter ça contre les secondaires des Pats.
Pour le match du lundi soir, je veux seulement un nom d'équipe, messieurs. Cowboys qui visitent les Giants. J'y vais avec les Boys.
Cowboys aussi, mais serré.
Stéphane?
Cowboys par un touché.
Excellent. Alors... on prend une petite pause à ce stade-ci et on vous revient pour la très pertinente chronique au bar. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. De retour, et je m'en vais du côté de Stéphane Cadorette. Qui mérite d'aller cuver son vin au bar, cher ami?
Je vous avais parlé d'un choix hier, puis je change à la dernière minute, parce que j'ai le goût d'envoyer Baker Mayfield au bar. Ça va y faire du
problème. Quel choix facile, vas-y!
L'interception qu'il a lancée sur un shovel pass dans les mains de Lawrence Guy.
Ah, c'était honteux, ça, j'avoue. Là. Peut-être la pire interception de l'histoire de la Ligue.
Tu sais, on a... Rappelez-vous d'un jeu comme le Butt Fumble là, qu'on revoit aujourd'hui
oui,
encore,
oui,
c'est mémorable. Je pense que ça va malheureusement rester.
Déclasser le Butt Fumble.
Ben, je sais pas si ça va déclasser, les années vont nous le dire, mais c'est un jeu mémorable. Puis Baker Mayfield est franchement sous pression en ce moment. C'est pas beau de le voir aller. Il chicane avec les journalistes à Cleveland. Il a mis fin à sa conférence de presse cette semaine de manière abrupte. On voit que la pression monte. Faut qu'il se passe de quoi de positif dans sa vie. Puis des fois, ben ça commence par une bière au bar. Ça replace les idées. Je l'ai dit souvent, le bar, c'est pas si négatif.
Non, c'est ça. On t'envoie là pour réfléchir, puis ça se peut que tu performes bien après.
Je veux rendre service à Baker Mayfield. Moi, ultimement, je veux son bien. Je l'envoie au bar parce que je pense qu'il va se replacer.
Rapidement, je vais vous dire qui j'envoie au bar. Monsieur Kingsbury, l'entraîneur des Cardinals. Quel temps mort horrible en fin de première demi hier qui prive son équipe d'un gros jeu défensif. L'équipe des 49ers sur place marque un touché avec Sanders. Monsieur Kingsbury au bar. Puis vous avez fait un mauvais call aussi en fin de match sur un appel d'un challenge. Au bar, vous avez tué votre propre club, Monsieur Kingsbury. John Essay.
Moi, j'en vois le sympathique parce que je l'aime bien comme entraîneur. Il est juste pas bon, à bonne place pour l'instant. C'est Brian Flores que j'envoie au bar.
Est-ce que t'envoies M. Flores pour un Hall Blitz?
Un Hall Blitz avec très peu de temps à jouer, une situation de 3e et 20. Écoute, quand son équipe avait joué une excellente première demi et...
À Pittsburgh, le match du lundi.
Un carrière qui cherchait à ce moment-là. Mason Rudolph avait énormément de difficultés en défensive de zone.
Oh non, et c'était là, très mauvais première demi ce match-là.
Tu t'en vas appeler un cover zero, ça t'amène tout le monde dans le bois puis tu fais blitzer. Évidemment, ça a donné une ouverture béante à l'un des receveurs sur un tracé.
Diontae Johnson.
Un petit tracé intérieur. Écoute, c'est un des pires calls que j'ai vu de mon existence défensif dans la NFL. Puis c'est pas le premier entraîneur à appeler un blitz sur un 3e et 20. C'est la situation. Quand tu intègres ça dans la globalité, le fait qu'il menait par beaucoup, le fait qu'il s'en allait à la demi avec beaucoup de momentum, c'est sûr qu'il aurait pas complété ça s'il avait joué de la défensive de zone ou même une défensive poteau où t'as 6 ou 7 demi-défensifs qui attendent à la ligne de 20. Tous les calls étaient mieux que celui-là. Lui, il décide de dire non, on va mettre de la pression, on va le faire paniquer. C'est un des pires calls que j'ai vu. Et le problème pour moi avec M. Flores, c'est qu'il a défendu son appel de jeu. C'est ça le problème. Tu crois encore que c'était le bon appel alors que toute la planète football.
Tout l'univers a vu que c'était le pire.
C'était un des pires que j'ai vu. Pour tous ces éléments-là, va réfléchir et je le condamne au bord à boire du cognac, messieurs.
Oh, rien de moins. Messieurs, c'était une édition très intéressante de la zone payante. On va prendre une petite pause et après ça, on va vous inviter à venir nous rejoindre dans la section fantasy parce que en fin de semaine, il y a beaucoup de bails. Vous allez être contents d'avoir nos conseils.